Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère. Nous sommes le dimanche 12 octobre 2025 en direct de 15h à 16h30 au 88.4. Vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles pour une édition spéciale. Oui, une édition spéciale car nous enregistrons aujourd'hui hors les murs. Alors je vous invite à imaginer et vous plonger avec nous. Nous sommes à la fête de la science sur le vieux port de Marseille, à deux pas de la mairie, et nous remercions les petits débrouillards pour leur invitation. En ces temps troublés, la science, comme souvent, fait l'objet de nombreux fantasmes contradictoires. D'un côté, présente pour informer, de l'autre parfois instrumentalisée pour accompagner des campagnes de désinformation. Elle peut être vertement remise en cause par le locataire de la Maison-Blanche lorsqu'il s'agit de dénier le consensus scientifique quant à notre responsabilité humaine sur le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Pourtant, les rapports du GIEC sont unanimes. Nous dépassons un peu plus tôt chaque année ce que la Terre peut produire en un an. Le jour de dépassement était le 24 juillet cette année, alors qu'il n'était que le 29 décembre. En 1970. 7 des 9 limites planétaires sont dépassées et il est maintenant assuré que les plus 1,5 degrés de réchauffement par rapport à l'avant-période industrielle ne seront pas tenus. Et pour aller jusqu'où ? Plus 4, plus 5 degrés ? Ces chiffres ne sont pas abstraits. Ils vont révolutionner nos vies jusqu'à menacer notre capacité à faire société. La science est alors invoquée comme réponse à nombreux de nos problèmes et nos contraintes. Mise d'un côté sur le banc des accusés, elle est également invoquée comme ayant réponse à tout, et c'est parfois troublant. De l'énergie dite verte à la conquête de l'espace d'Elon Musk jusqu'au dépassement de nos limites humaines, elle chamboule notre rapport au temps, à l'espace, à la connaissance, aux relations sociales, jusqu'à la vie et la mort. Lorsque je suis né, il y a 30 ans, ma famille n'avait pas d'ordinateur. Il m'a fallu attendre jusqu'à mes 20 ans pour avoir une connexion Internet sur mon téléphone. Et voilà que l'intelligence artificielle bouleverse nos vies, nos façons de travailler, de penser et de nous soigner même. Ce phénomène de grande accélération s'observe jusque dans les nombreuses courbes scientifiques et se ressent de manière viscérale jusqu'au moindre recoin de nos quotidiens. Colosse au pied d'argile, la science n'a jamais semblé aussi apte à répondre à tous nos défis et dépasser toutes les limites de l'imaginable alors que l'épuisement de nos ressources nous menace d'un effondrement civilisationnel imminent. Alors, pour nous y retrouver, tâchons, autant que faire se peut, de nous donner un peu de clarté. Le thème du Festival de la Science qui nous réunit aujourd'hui concerne les intelligences avec un S. Mais qu'est-ce que l'intelligence ? Et pourquoi avoir mis l'accent sur leur pluralité ? Est-ce une compilation de savoirs épars ou notre capacité à regarder les problématiques de notre temps de façon transversale ? Avec plus de pluralité de regards et d'approches qui nous permettront d'y voir plus clair. Et dans tout cela, comment l'intelligence artificielle, la tech ou la réalité augmentée peut nous favoriser dans nos intelligences humaines, guider nos choix, comment, jusqu'où et à quel prix ? Je suis Marin Moffray, accompagné ce soir de... Enfin, ce soir d'habitude, c'est le soir, mais aujourd'hui c'est en journée, de ma collègue de La Forêt des Possibles, Julie David. Bonjour Julie.
Bonjour Marin.
Et pour cette première table ronde, nous avons le plaisir de recevoir Manon Vessiaux. Bonjour Manon.
Bonjour.
Manon, vous êtes ingénieure logicielle en réalité virtuelle et augmentée au Centre de réalité virtuelle de Méditerranée. Et donc, on va se poser une question, c'est comment la réalité virtuelle peut nous inviter à prendre conscience des enjeux du changement climatique et quels peuvent en être aussi les impacts. Et pour celles et ceux qui ont l'habitude de nous écouter, eh bien, nous aimons bien dans La Forêt des Possibles lorsqu'il s'agit de tracer les liens qui existent entre science et transition écologique à remonter le fil du moi au nous et du nous au tout. Du moi au nous, il s'agit d'aller à la singularité de vos parcours pour savoir ce qui vous a amené jusqu'à vos projets actuels. Et du nous au tout, la question est de savoir comment est-ce que ces projets contribuent et impactent notre société. Alors, ma première question, Manon, vise à vous connaître un peu mieux et savoir ce qui vous a amené jusqu'à l'amour des sciences.
Pour ma part, mon domaine n'a pas été toujours le domaine de mon domaine de prédilection quand j'étais plus jeune. Je me suis pas forcément intéressée tout de suite à l'informatique, à la réalité virtuelle, à ce genre de choses. c'est avec l'amour des maths. Donc voilà, j'ai toujours plutôt bien aimé les mathématiques étant plus jeune, et j'ai du coup pendant ma scolarité suivi cette voie. Et après le bac, après ma prépa de mathématiques, j'ai découvert la programmation, et la programmation ressemblait en quelque sorte aux mathématiques, dans le sens où il y avait derrière l'algorithmie, des étapes à suivre, une logique derrière tout ce code. Et donc ça m'a mené à me dire, tiens, que l'informatique était assez intéressant, parce que j'avais quand même un ordinateur avec moi, même si j'étais pas une mordue d'ordinateur, ça me plaisait quand même assez bien. Et donc je me suis tournée vers ça, et quand il a fallu choisir une école, j'ai regardé les différentes options, et là il y a quelque chose qui m'a tapé dans l'œil, c'est la réalité virtuelle et augmentée, parce que c'était quelque chose d'assez nouveau et aussi d'assez créatif. Il y avait derrière réalité virtuelle, c'est la création d'un monde virtuel, donc derrière il y a vraiment énormément de possibilités. Pareil pour la réalité augmentée, c'est vraiment une création vraiment presque infinie. C'est nous qui définissons tout ce qu'on veut faire avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc c'était pour moi quelque chose de très large, et du coup quelque chose dans lequel potentiellement je pourrais faire tous les jours différentes choses et donc jamais m'ennuyer.
Merci pour cette première réponse. Et si on aime bien poser cette question de savoir ce qui t'a amené jusque-là, c'est de se plonger à la place de celles et ceux qui sont sur les bancs et qui nous écoutent et qui arriveront peut-être aussi au fil de l'eau, de savoir en fait qu'est-ce qui vous a mordu pour aller jusqu'à ces projets-là. Et quand on a préparé l'émission, vous nous parliez du rapport à la curiosité. Vous nous disiez que la curiosité de découvrir, d'apprendre des nouvelles choses, c'était quelque chose qui était aussi un peu comme une boussole. Est-ce que je me trompe ?
Non, pas du tout. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, au niveau de la réalité virtuelle, on a plein de domaines qui vont se prêter à cela. Parce qu'en en informatique, pardon, il y a plein de domaines différents. J'aurais pu aller vers la sécurité des réseaux, ce genre de choses. Mais la réalité virtuelle, c'est vraiment quelque chose dans lequel je vais pouvoir travailler avec des personnes qui vont travailler dans le sport, des personnes qui vont travailler dans la recherche, par exemple, dans l'océan. Vraiment, c'est vraiment très très large. Ça peut s'appliquer à plein de choses différentes, parce que ça va être utilisé pour sensibiliser les gens, pour former les gens, pour faire découvrir aussi des choses à des gens. Donc c'est vraiment quelque chose de très très large, et donc moi j'aime beaucoup justement découvrir de nouvelles choses. C'était un petit peu une façon pour moi d'avoir un travail qui me permettait, à chaque fois que je changeais de projet, de découvrir quelque chose de nouveau.
Merci pour cette réponse. J'ai employé la question de la curiosité. La curiosité, c'est aussi une curiosité que j'ouvre à la salle. Sachez qu'on va prendre peut-être 30 minutes de présentation, puis à un moment, si jamais vous voulez poser des questions, on aura vraiment un moment d'interaction. Donc voilà, je le présente et on le précisera à plusieurs reprises dans ce plateau radio qui en fait est un pur direct. Et là, on a déjà commencé à parler de réalité virtuelle, mais maintenant peut-être qu'il s'agit vraiment de donner une définition. Parce que ça peut susciter peut-être plein de fantasmes, ça renvoie à de la science-fiction depuis fort longtemps dans un imaginaire collectif très largement partagé. Est-ce que tu peux nous en donner un peu une définition et puis le cadre ?
Alors je vais vous donner ma définition, parce que c'est vrai que ça a beaucoup évolué, il y a beaucoup de nouvelles choses, et donc du coup petit à petit les définitions ne sont pas forcément les mêmes. Donc la réalité virtuelle, à la base, on a besoin de voir quelque chose. Donc souvent on va voir en 3D un monde virtuel, et donc dans ce monde virtuel on va avoir la possibilité de se déplacer, de bouger. C'est en fait un mix entre du cinéma 3D et des jeux vidéo, parce qu'on va avoir l'immersion visuelle avec la 3D qui est permise par les casques de réalité virtuelle ou d'autres simulateurs de réalité virtuelle. Et en plus de la partie 3D, on va avoir des capteurs qui vont nous permettre en fait de savoir où se trouve l'utilisateur en temps réel dans l'environnement 3D, et donc de recalculer ce qu'il voit en temps réel. C'est-à-dire que quand vous êtes en cinéma 3D, vous voyez seulement ce que la caméra a filmé. Si vous changez de place, vous ne voyez pas autrement, vous pouvez pas faire le tour des acteurs, ce genre de choses. Alors qu'en réalité virtuelle, vous avez vraiment cette possibilité de vous déplacer complètement dans un environnement. Mais maintenant, c'est vrai que la réalité virtuelle, souvent, elle va être utilisée aussi pour des trucs encore plus larges, parce que maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la réalité mixte, parce qu'on confond souvent la réalité virtuelle et la réalité augmentée, parce que c'est vrai que toutes ces choses-là peuvent se mélanger entre elles. Parce que la réalité virtuelle, on va dire que vraiment on est dans un monde virtuel, alors que la réalité augmentée, ça va être de montrer des objets virtuels dans le monde réel. Donc souvent il y a un petit cafouillage sur ces deux termes, et avant, à l'époque, c'était assez différencié, on faisait soit du virtuel, soit de l'augmenté. Maintenant, grâce aux nouvelles technologies, on peut en fait faire vraiment un mixte, d'où le terme de réalité mixte, où on va être dans un monde complètement virtuel, mais on va potentiellement avoir une partie qui va quand même être montrée et qui est du réel, du coup. Donc, par exemple, vous allez être dans votre salon, vous allez avoir la possibilité de voir votre canapé, ce genre de choses, mais l'environnement, lui, tout autour du canapé, il va être complètement virtuel. Vous avez votre canapé qui va se retrouver dans les montagnes, dans l'univers, dans la galaxie, vraiment. Et donc, ces deux choses sont assez mélangées, c'est pour ça qu'on a maintenant le terme de réalité mixte plutôt. Ça permet d'éviter de se tromper sur ce à quoi on parle. Voilà.
Et alors, quand on a préparé l'émission, je vous ai proposé de mettre un casque sur la table. Si jamais là je le mettais sur ma tête et qu'on le branchait à l'ordinateur, qu'est-ce qui se passerait ?
Eh bien là, rien, parce qu'il est éteint.
Mais alors, si jamais il était allumé et qu'on proposait une...
Tout à fait.
Quelque chose à vivre.
Alors là, ici, au niveau de ce casque-là, si vous l'allumez, il y a plein d'applications différentes qui ont été faites par nous. Il y a aussi la possibilité, bien sûr, de télécharger des applications qui sont faites par d'autres personnes, et souvent, ça va être plus jeux vidéo. Moi, les applications sur lesquelles je vais travailler, ça va être plutôt des applications orientées formation, sensibilisation, éducation, tout ce genre de choses. Et donc, par exemple, aujourd'hui, on présente les casques sur un stand où on va présenter une application de collaboration entre deux personnes. Et donc là, on va pouvoir mettre deux casques ensemble. Donc deux personnes vont avoir un casque chacun. Et on va pouvoir Alors là, c'est un petit jeu de lancer de balles. Et donc vraiment, l'environnement est complètement virtuel. Donc vous verrez plus du tout les personnes qui sont autour de vous, même votre corps d'ailleurs, parce que si l'application n'est pas faite pour, vous n'avez pas de corps, il faut créer votre corps virtuel. Et ensuite, dans ce jeu-là, par exemple, c'est une expérience qui va permettre de parler de collaboration sur une tâche. Donc là, cette tâche-là, c'est une tâche de lancer de balles. Et donc après moi je suis partie développement, mais mes collègues qui font la recherche, eux, ils vont étudier comment deux personnes vont collaborer pour effectuer une tâche. Donc cette tâche là pour cet exemple là c'est un échanger de balles, mais des fois selon ce que mes collègues font comme recherche, bien entendu, c'est différentes tâches.
Ouais, vous nous disiez en préparant l'émission qu'il y avait plein de cas d'usage possibles. Est-ce que vous pouvez en donner quelques exemples?
Tout à fait. Alors les cas d'usage, comme j'ai dit au tout début, moi ce qui m'a intéressé, c'est le fait que c'est dans plein de domaines différents. Donc vraiment, il y en a énormément. Moi, je travaille dans un laboratoire, l'ISM, l'Institut des sciences du mouvement, qui du coup étudie le mouvement humain, tout simplement. Et donc là, vraiment, c'est orienté très mouvement humain. Donc on va avoir du sport, par exemple. On a des personnes qui vont étudier comment un sportif va faire le mouvement. Donc par exemple, on a le gardien de but, comment est-ce qu'il va appréhender la balle et savoir de quel côté aller, en haut, en bas, au milieu, ce genre de choses. On va aussi étudier comment effectuer des mouvements pour éviter de se blesser. Il y a des personnes qui vont étudier la course et voir comment justement améliorer notre course sans trop se blesser, donc au niveau des articulations, au niveau musculaire, ce genre de choses. Après, c'est beaucoup utilisé aussi pour tout ce qui est formation, parce que là je vous ai parlé de la recherche au niveau de mon laboratoire, mais aussi beaucoup d'utilisation au niveau de la formation. Donc là, ça va être de la formation formation incendie, c'est tout à fait possible. Imaginez qu'on est dans un environnement de bureau, il y a un incendie qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? On va former les gens, soit étape par étape, donc on va les aider petit à petit, à dire première étape, il faut faire ceci, ensuite cela, etc. Soit ne pas du tout les aider et donc voir directement ce qu'ils vont faire et après discuter ensemble. Après, pour la formation, par contre, il faut faire très attention. Souvent, c'est un outil qu'on va rajouter en plus. parce que les formations quand même sur place, enfin en réel, c'est quand même aussi très important. Mais le fait de le faire en réalité virtuelle, en fait, ça va protéger en quelque sorte les gens, ou bien c'est aussi une façon de moins utiliser d'argent, parce que de temps en temps, former quelqu'un sur un certain prototype, un certain outil, ça peut être assez coûteux. Par exemple, les personnes qui vont être formées sur les moteurs d'hélicoptère, ça veut dire qu'on va devoir avoir un moteur d'hélicoptère à disposition, l'hélicoptère va pas pouvoir voler, etc. En plus, la personne, si elle vient juste de commencer potentiellement en faisant ses premières formations sur le moteur, elle va peut-être casser des pièces, ce genre de choses. Donc ça permet de protéger et en même temps d'économiser de l'argent. Donc pour la protection, j'ai l'exemple souvent de la radioactivité. Les personnes qui sont formées dans des milieux radioactifs, ils vont être formés dans un premier temps en réalité virtuelle pour connaître toutes les étapes à faire. Voilà, se protéger, comment est-ce qu'on s'habille avant de rentrer dans un endroit qui est radioactif, qu'est-ce qu'on va faire dans le cas où il y a un incident justement de radioactivité. Voilà, tout ce genre de choses, ça peut être assez intéressant pour justement faire ça en amont. Mais il faudra jamais abandonner la partie pratique, bien entendu, sur le terrain, parce que en réalité virtuelle, tous les gestes précis, par exemple, sont assez difficiles à faire en réalité virtuelle, parce que c'est du tracking, on va faire du tracking de mouvement, et donc potentiellement le tracking va pas être non plus extrêmement précis. Donc par exemple pour la médecine, quand on va si on veut former quelqu'un à la médecine à faire des découpes sur quelqu'un pour la chirurgie, la réalité virtuelle va pas forcément s'y prêter parce que le geste est trop précis.
On voit tout un cas de cas d'usage. Julie, je te voyais à ma droite avoir une question que tu préparais.
Oui, alors c'est une question très pragmatique, puisque la dernière fois, enfin, en tout cas la première fois que j'avais vu un cas, c'était il y a quelques années quand je travaillais dans la maîtrise des risques. Et donc justement, les casques étaient introduits pour montrer des situations à risque et former les salariés pour qu'ils identifient les endroits qui pouvaient être accidentogènes. Et alors pendant les tests, je me souviens d'avoir terminé un quart d'heure après avec des nausées terribles et un gros mal de tête. Et du coup, je me demandais si le port du casque ou cette réalité-là, si ça avait des effets physiologiques, si c'était des effets qui étaient communs, enfin s'il y avait une limite de temps.
Alors oui, en effet, il faut faire toujours attention au casque de réalité virtuelle. Alors, au niveau physique, y a les yeux, parce que si on met des casques comme on a sur la table ici, l'écran est vraiment à quelques centimètres de nos yeux. Donc l'avoir trop longtemps sur le visage, c'est comme le téléphone, hein, faut pas non plus regarder son téléphone pendant des heures. Mais après, là, ce dont vous avez fait l'expérience, c'est ce qu'on appelle le cybermalaise. C'est sûrement peut-être parce que vous aviez eu des déplacements virtuels. Ça arrive aussi pour d'autres raisons, mais souvent c'est dû à des déplacements qui sont virtuels, parce qu'en fait, je prends souvent l'exemple de la voiture qui est assez similaire. En fait, dans le casque de réalité virtuelle, vous allez avoir un déplacement virtuel, donc vos yeux vont voir un déplacement. Par contre, votre oreille interne, elle va pas voir de déplacement, enfin elle va pas ressentir le déplacement plutôt. Et donc ces deux informations vont monter au cerveau, et le cerveau, lui, il va dire j'ai deux informations qui vont pas dans le même sens, donc peut-être que j'ai ingéré quelque chose de pas bon. Et c'est ça qui va faire que vous avez souvent des nausées. Donc dans la voiture, c'est le contraire, on voit les sièges qui ne bougent pas, donc nos yeux pensent qu'on ne bouge pas. Par contre, notre oreille interne, elle sent bien qu'on est à 80 km/h dans une voiture.
On a notre cerveau qui est un peu déboussolé à ce moment-là, et on aura l'occasion de parler du cerveau juste après, lors de notre deuxième table ronde. On peut aussi être un peu déboussolé quand on voit un temps où il fait aussi beau et aussi bon au milieu du mois d'octobre. Et nous, notre émission, c'est une émission qui d'habitude donne la parole à des acteurs de transition écologique et sociale ici à Marseille. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir rentrer un petit peu sur cette thématique-là. Et lorsqu'on préparait l'émission, vous nous disiez que vous aviez des sortes de projections par trajectoire en réalité virtuelle, où en fonction des choix qu'on décide de prendre, eh bien, on voit concrètement l'incidence que ça peut avoir sur la vie qu'on va mener. Et donc, j'aimerais que vous puissiez nous présenter en fait à quoi ça ressemble, et j'aurais une question derrière sur qu'est-ce que ça provoque en tant qu'humain qui fait l'expérience.
Alors oui, en effet, là, ce dont on parle, c'est un projet qui a été fait pour le CNAM de Toulon. Donc C'est une application qui a été créée suite à ce que eux faisaient déjà sur place, donc ils le faisaient déjà en réalité. Donc c'est une expérience où l'idée c'est de confronter les utilisateurs à différents choix de la vie de tous les jours pour savoir quel type de personnes ce sont. Donc eux, ils ont trois types, trois mouvements qui décrivent. Donc il y a les biotechnologies, biomimétismes, pardon. Il y a le high-tech et il y a le low-tech. Donc le biomimétisme, ça va être les personnes qui vont plutôt viser sur toutes les technologies, qui vont essayer de faire comme la nature. Le high-tech, eux, ça va être des personnes qui vont essayer de miser justement sur les grosses technologies pour améliorer la vie, améliorer le futur. Donc souvent, on va parler d'IA, d'optimisation, d'automatisation, ce genre de choses. Et les low-tech, c'est au contraire ceux qui vont plutôt essayer de tout de suite utiliser des possibilités qui vont être assez simples et avoir un plus petit impact. Donc les personnes qui vont essayer de mutualiser les ressources, ceux qui vont par exemple faire en sorte que par exemple dans mon application il y avait une question de est-ce qu'on rachète une voiture ou est-ce qu'on a une voiture pour tout le quartier. Voilà, ceux qui vont plutôt choisir la voiture pour tout le quartier, ce seront plutôt des low-tech, parce qu'ils ont un esprit peut-être de communauté, de partage, et c'est dans ce sens-là qu'ils vont essayer justement d'aller pour améliorer la vie de tous les jours.
Je crois que dans les low-tech, il y a aussi la notion de facilité à réparer aussi. Par soi-même.
Oui, tout à fait, exactement. Alors qu'en effet, dans le high-tech, souvent, on va utiliser de la grosse technologie, mais pas forcément toujours très bien soutenue, parce que obsolescence à chaque fois. Donc voilà, il y a tout ce genre de choses, mais en fait, tous ces mouvements-là vont avoir quand même l'idée d'améliorer la vie et donc d'améliorer le futur et l'écologie, mais à leur manière. Donc par exemple, les high-tech, même si en effet ils utilisent des technologies qui sont peut-être qui ont de l'obsolescence, qui vont vite se casser et qui vont être difficilement réparables, elles vont avoir quand même la partie où elles vont quand même tout automatiser, tout optimiser et donc peut-être utiliser moins d'énergie, ce genre de choses. Voilà.
Ces questions de trajectoire, ça me fait penser à des trajectoires qui peuvent être assez connues, notamment il y a différents scénarios qui peuvent être ceux de l'ADEME, et puis il y a aussi Arthur Keller qui a fait des trajectoires qui vont du durabilisme, vraiment la décroissance, puis après l'effondrement et carrément le chaos en fonction des trajectoires et des choix qu'on prend. Et quand on préparait cette émission, vous nous disiez qu'une des grandes forces que ça avait, que de se voir ça avec nos yeux et de le ressentir, c'était que ça venait activer nos émotions et notre perception du futur. Alors est-ce que vous pourriez un peu nous présenter qu'est-ce qu'on y voit dans ces différents scénarios quand on se lance dans cette aventure, dans cette expérience?
Bien sûr, alors donc là je vous ai présenté un petit peu l'idée générale. Donc comme je vous ai expliqué, c'est quelque chose qui faisait donc dans la réalité. Et là, l'idée, c'était de le mettre en réalité virtuelle pour vraiment mettre les personnes face à des situations qui potentiellement sont réelles, qui peuvent arriver à n'importe qui. Et donc, les mettre dans cette situation, en fait, ils vont vraiment être immergés dans la situation. Donc là, dans ce cas-là, quand vous commencez l'application, vous allez avoir déjà une petite introduction qui va vous expliquer justement les problèmes. Donc avec certains chiffres sur justement l'augmentation de la température, ce genre de choses, et ils vont vous introduire ce que vous allez faire, donc le fait que vous allez être introduit dans une vidéo 360 avec des personnes qui vont discuter de certains choix à faire. Et donc la première scène, vous allez démarrer, donc vous allez avoir de la famille qui va arriver chez vous, et en fait votre grand-père va avoir un problème, c'est que sa maison s'est retrouvée inondée. Et donc là, petit à petit, les trois personnes qui sont autour de vous, donc il y a le grand-père, la sœur et l'enfant de la sœur, donc votre neveu, qui vont discuter ensemble des différentes solutions. Et en fait, ces trois personnes représentent ces trois courants, donc biomimétisme, low-tech et high-tech. Et donc ces trois personnes vont réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on va faire. Et donc à chaque fois qu'elles vont discuter d'une des solutions, donc premièrement qu'est-ce que je fais par rapport à ma maison, est-ce que voilà quel type de maison je veux, elles vont discuter ensemble des différentes possibilités, et ensuite elles vont se tourner vers vous et elles vont vous dire: et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et là, vous avez la possibilité justement de choisir, voilà, est-ce que je vais préférer, est-ce que tu devrais plutôt faire une maison qui, par exemple, se calque sur les tournesols et qui tourne en fonction du soleil pour récupérer ensuite l'énergie du soleil. Est-ce que on va plutôt s'orienter vers peut-être une colocation avec d'autres personnes pour essayer d'avoir un environnement, de pas être tout seul dans une seule grande maison, ou est-ce que on va plutôt avoir une maison qui va être optimisée grâce à l'IA et aux nouvelles technologies. Voilà. Et après, il y a plein d'autres types de sujets qui vont être abordés. Le fait que voilà, il a son vélo électrique qui a pris l'eau, donc il va falloir qu'il voie une autre solution. Est-ce qu'il prend une voiture? Est-ce que voilà, ce genre de choses. Et donc, on a plusieurs choix à prendre. Et à la fin de chaque scène, donc on en a deux grosses scènes. À la fin de chaque scène, on va découvrir un petit peu nos questions vers où elles nous ont orientées. Est-ce qu'on va être plutôt biomimétisme, high-tech ou low-tech ? Et elles vont nous présenter du coup un différent futur. Donc première scène, on va ensuite avoir voilà, qu'est-ce qui s'est passé suite à nos choix. Et ensuite, on va avoir la deuxième scène. Pareillement, on aura des choix à faire. Et à la fin, on va nous présenter où est-ce qu'en sont tous les personnages suite à vos choix.
Est-ce qu'il y a des futurs qui sont plus désirables que d'autres ?
Non, alors là ils ont pris justement parti pris pour éviter ce genre de choses parce que ça reste trois courants qui peuvent être utilisables, il n'y en a pas un moins bien que l'autre, c'était pas le but. Donc là ils se sont basés sur des recherches sur justement ces trois courants là et l'idée c'est juste de montrer que la vie va être différente, mais l'idée c'est quand même que elle a quand même été améliorée mais d'une façon assez différente.
Oui, moi je me demandais à qui s'adresser typiquement ces formats de sensibilisation. De ce que je comprends, c'est peut-être plutôt des citoyens. Je me demandais quel type de configuration encore vous pouviez tester. Est-ce que ça peut par exemple concerner des entreprises, des entrepreneurs qui peuvent réfléchir à leur business model, la suite de leurs entreprises, dans la mesure où on parle aussi beaucoup aujourd'hui de business model régénératif. Et peut-être que des bilans carbone, c'est quelque chose finalement d'assez austère. Et voilà, je me dis que ça peut peut-être donner un petit peu plus de couleur et de saveur à ce qu'on peut entrevoir. Voilà, jusqu'où ça peut aller cet outil
Ça peut aller très loin. Alors cet outil-là en particulier, il a été fait pour les personnes qui suivent des formations à la CNAM. Et donc c'est supervisé par la CNAM, etc. C'est vraiment des personnes qui sont dans le milieu et qui ont quand même un minimum sensibilisé à tout ça. Et le but justement, c'est de les sensibiliser encore plus. Mais en effet, ce genre d'application, ça peut être généralisé et faire en sorte de mettre en effet quelqu'un dans une situation. Et il doit choisir de telle façon comment il va gérer la chose. Et voir qu'en fait, son choix va avoir un impact. Pas seulement, là, ici, c'était des choix beaucoup communs à la vie de tous les jours pour que n'importe qui puisse s'identifier. Mais on peut en effet imaginer des scénarios qui vont se passer dans des entreprises, peu importe, vraiment n'importe quoi, à cibler n'importe quoi.
Donc là, si je comprends bien, jusqu'à présent, c'est quelque chose que vous avez testé sur des publics. Et je me demandais avec quoi ils ressortent, ou en général, vers quel type de scénario ils ont envie de s'orienter. Qu'est-ce qui les frappe ?
Vraiment, il y a énormément... Enfin, c'est pas moi personnellement qui fait passer ça. Donc, une fois qu'on a fait l'application, c'est la CNAM qui a fait passer tout ça. Mais de ce que nous, on a testé, les personnes vraiment s'orientent sur plein de choses différentes. Il n'y a pas plus de l'un ou plus de l'autre. C'est vraiment assez large et ça va dépendre de la personnalité de la personne, bien entendu.
Une de mes questions, quand je posais la question de est-ce qu'il y avait un futur mieux que l'autre, ça me fait penser à un magazine qui est d'intérêt public et que j'invite chacune et chacun qui fait partie du public à pouvoir se le procurer. Ça s'appelle l'Atlas des ressources, c'est un hors-série du Courrier International et qui commence par l'impact de l'IA. Donc là, on parle vraiment de l'intelligence artificielle avec comme titre « Comment l'IA dévore la Terre ?» en matière d'eau, en matière d'énergie, en matière de métaux. Et ensuite, ce magazine va prendre les ressources les unes après les autres. Donc ça commence par les minerais, puis ensuite il va y avoir la question du bois, il y a la question de l'eau, il y a la question des différentes sources d'énergie, il y a la question de la qualité de l'air, avec des cartes où on montre bien en fait à quels endroits peuvent se trouver les ressources, quelles sont les incidences en matière de questions géopolitiques que ça peut avoir, les tensions sociales ou politiques sur le territoire liées à l'accaparement de la ressource, et est-ce que c'est une exploitation qui est de ce territoire-là ou par d'autres pays, par exemple les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Europe, reviennent souvent sur l'exploitation de ressources qui ne viennent pas de ces territoires-là. Et tout ça, en fait, c'est aussi des ressources qui viennent servir le développement d'outils de réalité virtuelle, d'intelligence artificielle et de technologie de manière générale. Et donc, je me posais la question de savoir si vous aviez quelques idées sur la question de l'impact de ces travaux.
Mais moi, j'avoue que ça a toujours quand même été assez flou, mais même dans ma vie de tous les jours, l'impact que j'ai sur la planète, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez flou qu'on, je trouve, on nous sensibilise pas assez. On nous apprend pas assez ce genre de choses. Et donc, en effet, moi, au niveau de mon travail, on a tendance à pas trop y penser parce que tous les jours, en fait, je fais des lignes de code, donc j'écris des programmes. Et donc, potentiellement, on se rend pas compte que justement derrière il y a un impact. Mais en effet, c'est comme n'importe quel outil technologique ou informatique. En fait, derrière, souvent, on va avoir des données qui vont être stockées sur des serveurs. Les serveurs, ils vont être dans des data centers qui vont être H24, qui vont tourner H24. Et donc derrière, c'est utilise beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité, ce genre de choses. Pareillement, du coup, quand on va faire une application, l'application, si elle n'est pas optimisée, elle va utiliser encore plus d'énergie, surtout en réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est quand même quelque chose d'assez gourmand. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut faire attention. Après, je vous avoue, moi, quand j'optimise une application de réalité virtuelle, je le pense pas tout de suite à me dire ça va économiser l'énergie de la planète, etc. Je vais faire ça parce que de toute façon il le faut pour l'utilisateur, parce que l'utilisateur, si déjà l'application bug, ça fonctionnera pas, il l'utilisera pas. Et en plus de ça, il y a toujours ce truc de si je lance une application, des fois il y a des applications qui vont prendre plus de batterie que d'autres, et souvent les applications qui vont décharger notre appareil, c'est les applications qu'on va un peu fuir. Donc si l'application n'est pas optimisée, de toute façon l'utilisateur n'utilisera pas l'application. Donc mais c'est aussi quelque chose qu'il faudrait penser en termes en effet d'énergie en soi.
Ouais, j'en profite peut-être pour faire un complément d'information, puisqu'on a parlé d'énergie, de ressources. C'est aussi une question de terres arables, souvent qui sont avalées pour procéder à l'exploitation de ces minéraux, qui polluent l'air, les sols, qui rendent les gens malades, qui poussent des peuples à être exterminés. Donc j'en profite pour faire une petite incise sur le prochain sujet qu'on aura tout à l'heure, qui parlera du cerveau et de l'impact de notre environnement. Mais clairement, notre environnement change, impacte notre santé. Et je crois qu'avec l'IA, les demandes croissantes en termes de flux, de données vont faire peser une demande sur les mines, qui font qu'elles vont être 5 fois plus nombreuses jusqu'à présent, sachant qu'on gère déjà très mal l'impact de leur pollution aujourd'hui.
Ce qui pose des questions de discernement, je pense, sur à certains moments, ça peut être d'utilité absolument publique. Quand on a préparé l'émission, tu nous disais que ça pouvait être, vous développiez des outils sur la gestion des risques, notamment sur des questions d'incendie. Pour que des pompiers puissent faire en fait des tests en minimisant le risque en réel, mais en mettant ça aussi dans la balance avec ce que tu viens de présenter, Julie, sur finalement un moment dans le discernement, à se dire là on y va parce que c'est d'intérêt public, ou là en fait peut-être qu'on décide de dire que l'impact est trop fort. J'aimerais avoir ton avis, et j'aimerais aussi avoir l'avis de celles et ceux qui nous écoutent, parce que ça reste un plateau radio ouvert et qu'on a deux plateaux radio de 45 minutes chacun. Et donc là on a fait une introduction sur un certain nombre de sujets, évidemment qu'ensuite ça pourrait avoir des heures et des heures de développement. Donc si à un moment vous voulez participer, n'hésitez pas à lever la main, il y aura un micro qui pourra se promener. Mais j'aimerais aussi avoir le temps que certaines puissent dire qu'ils ont envie de participer, avoir votre avis sur ces derniers développements.
Eh bien, en effet, le problème, après, c'est pas seulement la réalité virtuelle, c'est tous les types d'applications qui sont faits. Est-ce qu'une application, elle va être utile, ou est-ce que, c'est une application où on va juste marquer des trucs et c'est pour nous amuser, etc. Il y a toujours cette question-là de, est-ce que l'application que je vais faire, est-ce qu'elle vraiment elle va être utile, ou est-ce que c'est une perte de temps pour l'utilisateur, mais aussi une perte de ressources, en effet, pour derrière son utilisation, l'énergie que ça va prendre, et puis en effet derrière tout le matériel aussi, parce que les casques de réalité virtuelle, c'est aussi un certain matériel. C'est un petit peu l'équivalent, on a l'équivalent d'un smartphone sur ces casques qui sont là sur la table. Après, c'est pas forcément quelque chose dont on va se poser nous, enfin, en tout cas moi personnellement non, parce que bah, il va y avoir les clients qui vont venir nous voir et en fait, s'ils en ont besoin, bah, ils en ont besoin et donc on va leur faire l'application. C'est un petit peu notre travail tout simplement.
Moi j'ai une question du coup, est-ce que par exemple ils vont vous demander une étude d'impact sur les outils que vous allez développer pour eux, puisque finalement c'est quelque chose qu'ils vont intégrer dans leur modèle. Il y en a qui font des bilans carbone, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on vous demande par exemple d'essayer de minimiser les impacts, de mesurer un petit peu ce que ça va coûter, est-ce qu'il y a des demandes qui sont orientées? Je sais que par exemple dans le codage informatique il y a des langages qui sont moins énergivores que d'autres. Est-ce que vous avez des demandes de ce type-là?
Non, vraiment pas. En tout cas, moi personnellement, les projets sur lesquels j'ai travaillé, les gens ne se posent pas forcément ce genre de questions parce que justement, ils sont pas assez sensibilisés sur ce genre de sujet en fait. Donc, c'est pas. Moi personnellement, on m'a jamais justement de réfléchir à ça. C'est quelque chose en fait, les gens quand ils viennent nous voir, ils veulent une application, ils veulent l'application la moins chère possible, le plus rapidement possible. Donc, c'est vrai que les impacts. C'est vraiment pas quelque chose que les gens réfléchissent. Comme je l'ai dit, c'est vraiment pas, on n'est pas sensibilisé à ça.
Et du coup, est-ce qu'on pourrait faire un inception, à savoir de voir avec le casque de la réalité virtuelle, du coup, ce que provoque la production, par exemple, d'un des programmes? Est-ce que ce serait envisageable?
Oui, tout à fait, tout à fait. On pourrait très bien imaginer, en effet, des scénarios, un peu comme l'application dont on a parlé tout à l'heure. Une application qui va dire, voilà. Est-ce que vous partez sur ce type d'application ou ce type d'application avec une application qui va peut-être être à peu près la même, mais justement qui aura certaines choses différentes pour essayer d'améliorer derrière l'impact? Et en fonction de ce qu'on choisit, on va voir, là c'est vraiment à nous d'imaginer, on peut très bien faire quelque chose où on est dans un environnement naturel, et quand on choisit une certaine application, on va voir potentiellement des arbres disparaître ou des montagnes aussi disparaître, ce genre de choses. C'est vraiment à nous d'imaginer qu'est-ce qu'on veut montrer à l'utilisateur et quel est l'impact qu'on a quand on fait des choix, justement.
Un petit prélude au discernement.
Exactement.
Et les utilisateurs, utilisatrices potentielles sont peut-être aussi de l'autre côté du micro. Est-ce que vous avez envie de poser des questions? Parce que là, on a parlé justement du fait que peut-être qu'on ne se posait pas assez la question de l'impact, mais est-ce que c'est, si on prend ce sujet-là, est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle ou pas? Normalement, il y a un micro qui devrait tourner. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à Manon? Un public très sage. Oui, une première question. C'est toujours le plus dur que de se poser la toute première question. On se donne encore 10 petites minutes pour poser des questions au public.
Bonjour, merci.
Bonjour.
Je reviens, je n'ai pas assisté à tout l'échange, mais je suis très interpellée parce que je trouve que ça représente bien ce qu'on voit quand on fait le tour des stands, en fait. On a les stands qui alertent sur l'évolution de la planète, de l'eau, de toutes les ressources dont on a besoin pour vivre et qui donnent la qualité de la planète sur laquelle on vit. Et puis, on a tous les stands qui vont nous parler de l'avenir, de l'IA, de toutes ces technologies qui sont extrêmement intéressantes. Et je trouve que tous ces stands sont très décorrélés. Et je trouve que toutes les questions que j'ai pu poser sur certains stands sur « Ok, super, on va sur la Lune, mais une fois que le matériel est posé là-haut, qu'est-ce qu'on fait ?» On le réutilise. Quand on n'en a plus besoin, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on le fait revenir ? On verra d'ici là. Et voilà. Du coup, ma question, c'est effectivement, est-ce qu'il ne nous faudrait pas des organismes de régulation qui imposent le fait qu'aujourd'hui, pour toute nouvelle technologie, il faut qu'on soit en mesure d'anticiper son impact à 50 ans, à 100 ans ou à 200 ans ? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes générations, elles payent ce qu'on fait depuis déjà des dizaines d'années, de se dire, on verra plus tard. Là, on en est au côté hyper excitant et hyper sympa. On trouvera des solutions après. Voilà, donc je ne sais pas comment l'un et l'autre. Est-ce qu'il ne nous faudrait pas des organismes en amont qui imposent cette réflexion bilatérale, systématique, sur les productions actuelles?
Alors, dure question. Non, moi, je suis complètement d'accord. Après, déjà commencer à un peu plus expliquer aux gens, justement, l'impact que tous leurs choix ont. Déjà, rien que ça, je trouve que c'est vraiment très manquant parce que moi, je parle au niveau personnel, c'est vrai que quelques trucs que je connais justement sur mon impact, souvent c'est parce que justement j'ai eu des projets dans le domaine écologique Et du coup, en créant ces projets, j'ai travaillé avec des chercheurs qui m'ont donné des infos, et en lisant les infos, j'ai fait « Ah oui, d'accord ». Donc ça, c'est pas forcément super bien. Donc rien que ça, moi, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on n'est pas assez, impacté, assez sensibilisé. Et donc, en effet, derrière les technologies, dès qu'on en fait une, en effet, on se pose pas la question, et c'est d'autres personnes qui vont se poser la question, qui vont voir... cette nouvelle technologie et qui vont se poser la question. Et souvent, ces personnes-là, elles vont pas forcément être beaucoup mises en avant, justement. Mmh. Donc, même s'il y a des personnes qui vont faire ce travail de recherche, se dire cette nouvelle technologie, ok, elle est super, mais pour l'avenir, c'est pas ouf. Et ben, le problème, c'est qu'on n'en entend pas parler, en fait. Rien que l'intelligence artificielle, c'est sorti, on était tous waouh, c'est trop bien, on peut demander toutes les questions qu'on veut sur notre téléphone et on a les informations. Et le truc de dire bonjour, rien que rajouter bonjour à notre question, ça rajoute encore plus d'impact derrière quand on utilise une intelligence artificielle. Rien que ça, on n'est pas au courant en soi. Mmh. Donc,
y a peut-être aussi une question de bataille des imaginaires sur finalement où est-ce qu'on a envie d'aller avec ces différents outils. On a une sorte de course en avant qui nous est beaucoup poussée par ce qui se passe aux États-Unis en ce moment sur ces questions-là, où ça va toujours plus loin, on va aller chercher encore plus de ressources, on a envie de pouvoir envoyer encore plus de satellites dans l'espace. Et d'un autre côté, c'est ce que vous disiez, hein, une sorte de décorrélation des différents stands, d'autres qui alertent sur la folie de cette utilisation toujours plus loin de ces ressources-là, avec les catastrophes que ça peut provoquer. C'était d'ailleurs un peu cette grande dichotomie que je mettais en avant dans l'introduction. Et peut-être que c'est aussi quelque chose d'une bataille menée collectivement, citoyens, entreprises, acteurs politiques, pour mener cette bataille des imaginaires, d'un monde qui soit plus viable. Il nous reste quelques minutes. Peut-être qu'on va prendre une dernière question avant de conclure. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de pouvoir intervenir sur ce plateau radio, sur ce débat ? Ça fait plaisir de voir que vous êtes venu petit à petit nous écouter. Il reste 3 minutes. Est-ce que quelqu'un veut poser une dernière question ? Soyez pas timide. Ah, super.
Oui, bonjour. Mais moi, déjà, je vous remercie. J'ai vu que la fin. Ça m'a eu l'air très intéressant et je regrette d'avoir raté le début. Et juste pour rebondir, est-ce qu'on est forcément obligé d'opposer les deux ? Ou est-ce qu'il n'existe pas déjà actuellement ? Ou est-ce que c'est inventé ? Un domaine vraiment de recherche technologique qui aille vers du... je ne parle pas des technosolutionnismes, etc., mais qui aille plutôt vers du low-tech et des choses qui sont... qui optimisent l'utilisation de l'énergie, qui limitent les impacts, etc., et que ce soit fait sur l'aspect plus, justement, de développer cet imaginaire-là, en fait. Est-ce que c'est complètement utopique ou est-ce que c'est il y a des ouvertures, quoi.
Non, moi il me semble que, alors je m'y connais pas non plus énormément sur ce sujet-là, mais il me semble qu'il y a des personnes qui leur travail justement c'est ça, c'est d'optimiser les différentes technologies pour justement avoir des technologies qui sont beaucoup moins impactantes sur notre environnement, sur notre planète. Mais ça va être en effet souvent c'est assez quand même difficile de faire une nouvelle technologie et en même temps de travailler pour faire en sorte qu'elle soit le moins impactante possible. Je pense que ça coûte de l'argent et les personnes qui créent ce genre de technologie, souvent, elles vont essayer de faire quelque chose qui coûte pas cher. Donc, je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais...
Merci. Est-ce qu'on a une toute dernière question ? Sinon, on va pouvoir conclure.
Moi, j'ai bien envie un tout petit peu de rebondir sur la question qui a été posée tout à l'heure sur peut-être la nécessité d'avoir des institutions de contrôle en fait hein, sur l'impact et l'exploitation des minerais. Et donc là, j'ai appris récemment qu'il y avait une réglementation européenne en fait qui avait identifié cinq secteurs stratégiques pour lesquels le but était de pourvoir à ses besoins en métaux critiques. J'ai envie de dire quoi qu'il en coûte. Dont l'aéronautique, l'armement. Le numérique et la transition, il y a marqué écologique, mais bon là c'est plutôt une question de transition énergétique qui n'est pas nécessairement la transition écologique. Donc voilà, ça me semblait intéressant de voir que nos besoins vont doubler sur ces matériaux critiques pour nous. C'est défini dans des textes européens et effectivement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on devrait exiger, voilà, ça me semble important de le rappeler.
Merci Julie. Moi je voulais aussi conclure sur la question du discernement. Et déjà, je vous remercie Manon parce que les questions ont pu être pas forcément les plus faciles. que ce soit les nôtres ou celles du public. Et pour le coup, quand, je pense que là où il ne faut pas s'opposer sur la question des imaginaires dont vous parliez, je pense que là où il y a un truc sur lequel il ne faut pas s'opposer, c'est sur la question de la responsabilité, où on a chacun chacune un petit bout de l'équation entre les mains. On a souvent ce qu'on appelle le triangle de l'inaction, où citoyens, citoyennes, acteurs politiques ou entreprises vont souvent se renvoyer un peu la balle pour expliquer pourquoi nous ne sommes pas à la hauteur, en disant que c'est la faute des autres qui devraient faire, être les premiers à commencer. Et donc là, moi j'aimerais quand même intervenir là-dessus sur le fait que c'est courageux de venir répondre à des questions et que on a tous et tous un bout pour pouvoir y répondre et qu'il y a tout un tas de questions qu'on vous a posées qui ne sont pas directement de votre ressort mais qui sont d'une autre et aussi d'un point de vue politique sur les choix qu'on décide de prendre en tant que société, qu'ils soient donc politiques, économiques et que cette trajectoire commune s'écrit en commun. Voilà. Merci beaucoup Manon. Merci Julie pour cette première table ronde. C'était passionnant. Je vois que les gens sont venus petit à petit nous écouter. Je pense qu'on peut vous applaudir.
Merci beaucoup. C'était un plaisir en tout cas.
Marin, peut-être, vu qu'on a des personnes qui sont arrivées un petit peu à la fin de l'émission, comment est-ce qu'on peut faire pour réécouter le début ?
Bien sûr, merci pour cette question. Alors en ce moment, cette émission est en direct au 88.4, mais vous pourrez la retrouver sur les ondes de Radio Galère quand vous cherchez Forêt des Possibles. Et la Forêt des Possibles est aussi disponible sur un certain nombre de plateformes sur lesquelles nous avons nous-mêmes pas fait notre étude d'impact. À un moment, il faut aussi savoir balayer devant sa porte, notamment sur Spotify, Amazon Music et Apple Music, qui doivent aussi avoir des impacts qui ne sont pas les meilleurs de la Terre. Mais en tout cas, vous pourrez l'écouter là-dessus si vous tapez La Forêt des Possibles. Merci pour la question, Julie.